Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, L'été grec, de Jacques Lacarrière. Il y a des ouvrages emblématiques dans certaines collections. C'est le cas de L'été grec de Jacques Lacarrière dans la collection Terre humaine, célébrissime entreprise de l'écrivain explorateur Jean Mallory. Il a fallu à l'auteur plus de 20 ans de voyage à travers la Grèce avant de se lancer dans l'écriture de ce livre, dont le registre se situe quelque part entre les mémoires et le traité de sciences humaines. Le résultat en est un témoignage très libre et particulièrement érudit sur la Grèce d'aujourd'hui et les sources de sa culture, des lointaines traces de l'Antiquité au christianisme orthodoxe. Paru en 1975, un an après la chute de la dictature des colonels, L'été grec raconte sous la forme d'une chronique engagée la passion d'un homme pour un pays superbe et meurtri. Jacques Lacarrière invite à découvrir une autre Grèce, alors inconnue des vacanciers européens. Première étape, un pèlerinage au mont Athos, partager la vie quotidienne des moines orthodoxes, c'est revivre la gloire de Byzance. La deuxième étape se déroule sur un air de Repetiko, cette musique qui fait chanter et danser dans les tavernes. Un séjour dans le Péloponnèse pour découvrir un peuple qui doit son unité à une langue riche de 2 millénaires. Dernière étape, une traversée des îles de la mer Égée en quête de leur beauté nue. Jacques Lacarrière est né le 2 décembre 1925 à Limoges, en Haute-Vienne. Il passe son enfance à Orléans. Il obtient les licences de lettres et de droit, puis commence une carrière de journaliste. En 1947, il voyage pour la première fois en Grèce avec le groupe du théâtre antique de la Sorbonne. En 1950, il passe plusieurs mois en Crète, puis au mont Athos. Entre 1952 et 1966, il y retourne régulièrement, mais le coup d'état des colonels, le 29 avril 1967, l'empêchera de poursuivre. Parallèlement, il est critique dramatique à la revue Théâtre Populaire et fréquente la Maison des Lettres à Paris où il côtoie Albert Camus, Raymond Queneau, Roland Barthes, Antoine Vitez. En 1974, il publie « Chemin faisant, 1000 kilomètres à pied à travers la France d'aujourd'hui ». Il livre le récit philosophico-bucolique de son itinéraire des Vosges aux Corbières entre août et décembre 1971. Amoureux du grec ancien et de la mythologie, son essai, L'été grec, paru en 1976, lui vaut un immense succès. Jacques Lacarrière inventait un genre qui tenait de l'essai, du carnet de route, du poème en prose improvisé au rythme de la marche et du récit libéré de tous les codes formels. En 1969, il se marie avec Sylvia Lipa, dont il aura un fils. Écrivain voyageur, il explique bien sa philosophie. C'est le contraire de celle de l'escargot. Ne jamais emporter sa demeure avec soi, mais au besoin apprendre à habiter celle des autres qui peuvent aussi habiter la vôtre. Un amour de Loire paraît en 2004. Il meurt le 17 septembre 2005 dans le 20e arrondissement de Paris. Ses cendres ont été dispersées au large de l'île de Spetses, en Grèce. Un voyage à Athos, c'est d'abord un voyage dans le temps. Malgré sa luxuriance, le paysage n'a rien qui le distingue essentiellement du reste de la Grèce. On y trouve toutes les essences végétales des rivages méditerranéens, du maquis et de la montagne. Conifères, chênes, hêtres, châtaigniers, érables, oliviers, cyprès, platanes, eucalyptus, orangers, jujubiers, mimosas, que le voisinage de la mer et de la montagne a miraculeusement réunis, ramassés en une grande réserve naturelle. Le temps, lui, a une substance différente. Athos est une survivance, une parcelle de Byzance enclose en notre époque. Et le monde des vivants y reproduit avec tant de rigueur celui des morts et des ancêtres que les moines donnent parfois l'impression d'être des icônes animées, des silhouettes d'autrefois égarées dans notre présent. Oui, c'est bien une sorte de miroir invisible qu'on franchit en traversant le golfe de Longos, au bout duquel tremble ce mont et ce monde des ombres. Cette fixité, cette pérennité du temps d'Athos n'est pas une impression romantique ou forcée. La vie quotidienne a beau y être souvent relâchée, l'esprit religieux livré à la décadence, le temps lui-même paraît intact, comme si Athos était un de ces lieux secrets, une de ces montagnes magiques où le temps se fige et s'englue. J'éprouve le besoin d'écrire, sans trop savoir à qui. Il y a dans cette beauté d'Athos et l'agonie du monde qui le peuple, quelque chose d'angoissant, de stérile. Pour qui chantent toutes ces cigales? Pour qui volent tous ces oiseaux, ces êtres vivants dans ce paradis oublié? La vie des moines sans la mort. On ne parle que de fin du monde, d'enfer, d'apocalypse, comme si une haine inconsciente habitait chacun d'eux, contre tous ceux qui vivent heureux ou insouciants dans le monde. Dans le ciel ou sur la mer, les plus calmes, chacun ne voit que les orages qui vont fondre ou les tempêtes à venir. Je pense à tous ceux que j'ai rencontrés comme s'ils venaient de quelque autre planète. Je pense à leur visage. Ils m'intriguent et m'obsèdent, car ils expriment un monde qu'on ne trouve qu'ici, surgit des profondeurs du temps, jaillit des fresques et des icônes. C'est à Athos que m'a paru la loi secrète des visages. La ressemblance, ici, est si parfaite entre les traits imaginaires des saints et les visages réels que les détails extérieurs, la barbe, les cheveux, l'indifférence à la toilette, n'en sont pas seuls responsables. Comment s'effectue dans les corps, les os, les chairs, ce lent pétrissage, ces subtils agencements qui modèlent peu à peu les visages vivants sur ceux des morts? Il est fréquent, dans maintes sociétés, que l'homme ait voulu déformer son visage pour le reformer à l'image d'un autre. Un masque idéal coïncide alors peu à peu dans la conscience ou l'inconscience de chacun avec les chairs de la naissance. Ne s'agirait-il pas ici de donner à chacun le visage de l'autre, de conférer à la communauté des traits uniques? Ceci explique pourquoi, sur tant de fresques byzantines, les visages de la foule se ressemblent. Ce n'est pas là indigence du peintre ou maladresse du pinceau, mais l'image anticipée des foules de l'autre monde, de ce grand visage anonyme qui sera un jour celui de tous. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.